tout de suite, c'est le journal. Journal présenté par Antoine Mercier. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. La Tunisie se veut toujours pionnière dans le monde arabe en matière de droits des femmes. Le président Essep Sy relance le débat sur l'égalité homme-femme en matière d'héritage. Précision dans un instant avec Sébastien Berriot. Au moins 18 personnes tuées, dont 7 Burkinabés, 8 étrangers, dans l'attentat de Ouagadougou hier soir. Échange téléphonique entre les présidents français et burkinabés. Ils parlent d'accélérer la mise en place de la force de la coalition anti-djihadiste qui s'appelle le G5 Sahel. On entendra ce que cela signifie avec le consul du Burkina Faso à Nice. Après les déclarations de Donald Trump qui menaçait en fin de semaine le Venezuela d'une intervention militaire, le vice-président Mike Pence, en tournée en Amérique latine, se déclare convaincu de pouvoir atteindre une solution pacifique dans la région, analyse avec Marie-France Abastado. Les bouleversements du paysage politique français, seuls La République En Marche et La France Insoumise auront cette année les moyens d'organiser des universités d'été. Explication et dossier avec David Ravier. Au Canada, 4,5 tonnes de saumon génétiquement modifié se sont retrouvés dans les rayons des supermarchés depuis le début de l'année. Un premier pas qui inquiète les organisations environnementales. C'est un dossier suivi par Mélodie Pépin. Dans le grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon aujourd'hui.
Eh bien, nous nous demanderons si notre nouveau président est aussi pro-européen qu'il l'affirme. Que ce soit sur l'industrie ou la politique migratoire, pour le moment, la France joue plutôt cavalier seul. Alors Macron a-t-il vraiment un projet pour l'Europe, nous en débattrons avec trois correspondants de la presse étrangère. Stéphane Devry pour les Pays-Bas, Alberto Toscano pour l'Italie, Thomaïs Papayanou, correspondante de la presse grecque, et la politologue allemande Ulrike Guéraud.
La question de l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage reste sensible en Tunisie, où les femmes continuent d'hériter généralement uniquement de la moitié de ce qui revient aux hommes, comme le prévoit le Coran. Et l'an dernier, un député, qui est devenu aujourd'hui d'ailleurs ministre, avait présenté une proposition de loi qui visait à faciliter l'égalité en matière d'héritage, mais le moufti de la République s'y était alors vivement opposé. Le président tunisien Essep Sy relance donc aujourd'hui le débat en affirmant vouloir l'égalité dans tous les domaines, et toute la question, dit-il, réside dans l'héritage. J'ai confiance dans l'intelligence des Tunisiens et dans les hommes de loi. Nous allons trouver la formulation qui ne choquera pas les sentiments d'un certain nombre de citoyens et qui fera en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice. C'est ce que déclare en tout cas le chef de l'État, Sébastien Berriot. Bonjour.
Bonsoir.
Comment compte-t-il s'y prendre ?
Eh bien, le président Essep Sy compte avancer à tout petit pas sur cette question qui est effectivement extrêmement sensible en Tunisie comme dans tous les pays musulmans. Le chef de l'État souhaite d'abord la création d'une commission qui sera chargée de réfléchir à ce sujet et éventuellement à un nouveau code des libertés individuelles. Rien que la mise en place d'une telle commission, c'est un pas de géant que franchit le chef de l'État. Alors c'est vrai que la Tunisie, sous Bourguiba également pendant la période Ben Ali, a toujours été pionnière dans le monde arabe en matière de droits des femmes. Mais pas sur cette question de l'héritage qui reste tabou dans la société tunisienne. En 1956, en faisant adopter le fameux code du statut personnel qui avait mis fin notamment à la polygamie, le président Bourguiba avait échoué à intégrer dans le texte le principe d'égalité en matière de succession. Comme en 1956, le président Essep Sy va se retrouver lui aussi confronté à de fortes résistances dans les milieux conservateurs et également au sein de la population. Le fait de toucher au Coran reste très impopulaire. Un député du parti islamiste Ennahda a donné le ton ce matin en qualifiant la proposition du chef de l'État de dangereuse. Le bâtonnier de l'Ordre National des Notaires lui a appelé le moufti de la République à émettre une fatwa pour dire si cette évolution est conforme ou pas à la religion. Du côté des associations qui défendent les droits de la femme, c'est la prudence. On attend de voir si les propos du chef de l'État se traduiront dans les faits ou bien resteront au stade des promesses avant la présidentielle de 2019. Le président Essep Sy, en tout cas, s'est montré très offensif hier lors de son discours au palais de Carthage. Outre la question de l'héritage, il a également annoncé vouloir donner aux femmes tunisiennes qui le souhaitent la possibilité de se marier avec des non-musulmans.
Sébastien Berriot, merci. Au moins 18 personnes, dont 7 Burkinabés et 8 étrangers, on l'a appris cet après-midi, ont été tuées hier soir dans l'attentat de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'attaque menée donc par des des djihadistes présumés qui visaient un café-restaurant à Aziz Istanbul dans le centre-ville, des opérations des forces de l'ordre contre les auteurs de l'attaque qui s'étaient retranchés dans le café ont duré toute la nuit dernière. Échange téléphonique ce matin entre les présidents français et burkinabé qui insistent sur l'urgence de mettre en œuvre les décisions qui avaient été prises lors d'un sommet, c'était à Bamako le 2 juillet dernier, et d'accélérer aussi la mise en place de ce qu'on appelle la force de coalition anti-djihadiste du G5 Sahel, les 5 pays concernés dans la région. Le consul du Burkina Faso à Nice, Marc Erkadi de Saint-Paul, explique pourquoi le Burkina est devenu une cible privilégiée pour les djihadistes.
D'abord pour punir ce pays de s'être mêlé des affaires du Mali en accord avec la France et pour avoir envoyé des troupes. Et deuxièmement, le but est évidemment de déstabiliser le pays qui est dans une refonte économique importante. Et donc c'est un terreau relativement facile et propice pour embrigader certains jeunes burkinabés et également pour dissuader les occidentaux, les humanitaires, les hommes d'affaires.
D'autant que le Burkina Faso a réaffirmé sa volonté de lutter contre le terrorisme et que le président Macron a lui aussi réaffirmé la volonté de la France d'appuyer le G5 Sahel et donc le Burkina Faso.
C'est un engagement nouveau avec un nouveau président français, plus les autres présidents, comme vous l'avez dit, du Mali, du Tchad, du Niger et évidemment le président Kaboré du Burkina Faso. Donc il y a une volonté d'appuyer le Burkina, qui est un verrou, je le rappelle souvent, qui, s'il sautait, devrait pouvoir entraîner à terme une influence des djihadistes plus importante vers des pays plus au sud, comme la Côte d'Ivoire ou le Togo ou d'autres pays de la région. Donc c'est vraiment essentiel que les pays occidentaux, essentiellement par la voie de la France et aussi par les bailleurs internationaux, puissent réaffirmer leur soutien sans faille au Burkina.
Le consul du Burkina avec Hervé Toutain de France Info. En Syrie, les combats ont déplacé, on le sait, des centaines de milliers de personnes, dont une grande partie a trouvé refuge dans des camps de fortune installés dans les provinces de Raqqa et d'Assaké notamment. Selon le porte-parole du CICR à Damas, il existe dans ces deux provinces donc plus de 40 camps abritant chacun entre 2000 et 10 000 personnes installées dans des zones isolées. Ça complique évidemment l'acheminement des aides et des provisions. Le comité international de la Croix-Rouge alerte donc aujourd'hui sur les conditions terribles, dit-il, dans une dizaine de ces camps informels, ces camps de fortune. Mais dans le même temps, on assisterait dans certaines autres régions à un mouvement de retour. L'Organisation internationale des migrants évaluait ce matin, elle, à 600 000 le nombre de Syriens qui avaient quitté leur foyer en raison de la guerre, ont pu rentrer chez eux entre janvier et juillet de cette année. Tiphaine Honoré, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec l'apaisement relatif, très relatif des différents fronts syriens, est-ce qu'il y a peut-être un espoir de normalisation pour toutes ces personnes déplacées en Syrie maintenant ?
Alors, ce que notent les agences de l'ONU au sujet des réfugiés syriens, c'est qu'il y a bien un mouvement de retour. La reprise de Kobané en janvier 2015 à l'État islamique marque le début de cette tendance, mais elle reste à nuancer. D'abord parce qu'il y a toujours plus de 5 millions de Syriens réfugiés à l'étranger, un chiffre en hausse constante depuis 2013. Ensuite, parce que depuis le début de l'année, 800 000 Syriens se sont déplacés au sein même du pays pour fuir les zones les plus dangereuses. Les 600 000 personnes rentrées chez elles dont parle l'OIM sont d'ailleurs à 84% des déplacés internes. Et puis ce qu'il faut bien noter, c'est que ces réfugiés reviennent d'abord chez eux pour voir ce qu'il est arrivé à leurs proches et à leur maison, et non pas parce qu'ils s'y sentent en sécurité. La moitié de ces retours a d'ailleurs eu lieu dans la province d'Alep. Parmi les autres motifs invoqués par ces rapatriés, l'aggravation de la situation économique là où ils avaient trouvé refuge et les problèmes socioculturels. Alors ces mouvements de retour inquiètent en tout cas le Haut Commissariat aux réfugiés. L'un de ses porte-parole m'expliquait ce soir que les conditions sur le terrain étaient loin d'être réunies. La présence de mines, le manque d'eau, de nourriture ou encore de services de santé rendent donc ces retours très prématurés selon l'ONU.
Tiphaine Honoré, Donald Trump menaçait en fin de semaine dernière le Venezuela d'une intervention militaire et aujourd'hui c'est le vice-président Mike Pence qui a entamé une tournée sud-américaine qui s'efforce de jouer le rôle de démineur. Des déclarations du président des États-Unis avaient suscité la condamnation de nombreux pays de la région, y compris d'ailleurs de ceux critiques du gouvernement socialiste de Nicolas Maduro, comme le Pérou, le Mexique et la Colombie. « Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela », affirme aujourd'hui Mike Pence. Mais le président reste aussi convaincu qu'en travaillant avec tous nos alliés en Amérique latine, eh bien, nous pouvons atteindre une solution pacifique. C'est ce qu'il déclare lors d'une étape, l'étape colombienne de sa tournée. C'était hier, Marie-France Abastado.
Et oui, le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a entrepris cette tournée en Amérique du Sud hier en devant rassurer tous ses interlocuteurs parce que les déclarations de Donald Trump, effectivement, ce week-end, déclarations selon lesquelles aucune option, même militaire, n'était écartée pour ramener la démocratie au Venezuela, en ont fait bondir plusieurs à travers le continent. À commencer par le président de la Colombie, premier pays où il se rendait, et Juan Manuel Santos a demandé à Mike Pence que les États-Unis excluent la solution militaire pour ramener la paix au Venezuela. Dans la conférence de presse donnée par les deux hommes hier à Cartagène, le président colombien a soutenu qu'aucun pays d'Amérique latine ne pouvait être d'accord avec cette possibilité. Et effectivement, il y a eu ce week-end, à la suite des affirmations de Donald Trump, une vague de réprobation de ses propos à travers toute l'Amérique. On peut imaginer que le rôle prépondérant des États-Unis dans l'instauration de dictatures en Amérique latine dans les années 70 a laissé quantité de mauvais souvenirs. Donc, Mike Pence s'est montré beaucoup plus modéré que son président en affirmant que tous les moyens politiques et économiques seraient employés pour ramener à la raison le gouvernement Maduro, mais il ne s'est pas caché du fait que le rétablissement de la démocratie au Venezuela était le premier objectif de cette tournée en Amérique latine. Parce que pour les États-Unis, le Venezuela est carrément en train de basculer vers la dictature et Mike Pence souhaite s'entretenir à ce sujet avec tous ceux qu'il rencontrera dans les prochains jours, dont le président de l'Argentine, Mauricio Macri, et la présidente du Chili, Michelle Bachelet, pour voir comment ils peuvent unir leurs efforts pour sortir le Venezuela de la crise.
Marie-France Abastado, merci. Dans la vie politique française, la deuxième moitié d'août est en général occupée par la préparation des universités d'été. Mais cette année, eh bien, les principaux partis, les partis traditionnels en tout cas, n'ont pas vraiment les moyens de les organiser. C'est le cas en tout cas pour le PS, mais aussi pour les Républicains où beaucoup de difficultés se présentent. Et pour le Front National, en revanche, La République En Marche et La France Insoumise tiendront bien ces rendez-vous de fin août ou début septembre. Ça donne une idée, David Ravier, du bouleversement du paysage politique après les dernières élections.
Oui, puisque seuls les grands vainqueurs des élections législatives ont les reins assez solides pour réaliser des universités politiques cet été. Et bien sûr, la France Insoumise et la République En Marche, qui ont déjà lancé leur caravane partout en France au début du mois. La formation de Jean-Luc Mélenchon doit lancer sa première université d'été dans 2 semaines, tandis que la République En Marche a déjà fait sa convention le mois dernier. Au Front National, on évoque la gestion des comptes de campagne et les futurs remboursements d'emprunt pour justifier l'absence de grands rassemblements politiques à la fin du mois. Mais de toutes les formations, c'est le Parti Socialiste qui ressort le plus affaibli. Après ses mauvais résultats à l'élection présidentielle et aux législatives, la dotation versée par l'État au PS va passer de 25 à 7 millions d'euros. Du coup, pour la deuxième année consécutive, le PS organisera un séminaire de rentrée à la fin du mois à la place de sa traditionnelle université de La Rochelle. Il faut dire que l'organisation d'un tel rassemblement a un coût, 800 000 euros pour 3 jours à La Rochelle, une somme que le parti ne peut plus se permettre de dépenser. Enfin, chez les Républicains, s'il n'y a pas d'université d'été à proprement parler, ce n'est pas à cause d'un manque d'argent, mais plus pour des raisons de guerre interne à quelques mois des élections pour la présidence du parti. Résultat, à la fin du mois, les fillonistes feront leur rentrée à la Baule, les sarkozistes au Touquet, les juppéistes à Bordeaux, les supporters de l'Eurovionquier seront à Lyon et les groupes des constructifs ira à Trouville. Chacun fera donc sa rentrée de son côté et tant pis si le sentiment d'unité n'est pas au rendez-vous.
David Ravier, merci. Après le maïs ou le soja génétiquement modifié, voici le saumon transgénique commercialisé au Canada pour la première fois cette année. Un journal de Toronto révélait ce mois-ci que 4,5 tonnes de saumon génétiquement modifié s'étaient retrouvées dans les rayons des supermarchés, tout à fait légalement. C'est un premier pas, mais qui inquiète maintenant les organisations environnementales. Mélodie Pépin, bonjour.
Bonjour.
D'autant plus que tout a été fait dans une certaine discrétion.
Oui, les Canadiens sont devenus les premiers cobayes. À leur insu, dénonce d'ailleurs le réseau québécois Vigilance OGM, à leur insu parce qu'ils n'ont aucun moyen de savoir si le produit qu'ils achètent est génétiquement modifié ou pas. Pas d'étiquetage particulier. Pour comprendre, il faut rappeler la genèse de ce saumon transgénique. 25 ans de recherche pour mettre au point un saumon capable de grandir 2 fois plus vite. Il atteint sa taille adulte à 18 mois au lieu de 3 ans, en mangeant moins, grâce à l'introduction d'un gène produisant une hormone de croissance. Et c'est l'année dernière que les autorités canadiennes autorisent l'entreprise Aqua Bounty à le mettre en vente, concluant que ce saumon est aussi aussi sûr que le saumon non modifié. Et comme sa valeur nutritive est la même, pas la peine de changer les étiquetages. Les organisations environnementales se retrouvent prises de court aujourd'hui parce qu'elles ne s'attendaient pas à une commercialisation si vite. Après le feu vert, et puis discrétion toujours, on ne sait pas dans quelles enseignes, quel commerce et sous quelle forme ce saumon a été distribué.
Cet élevage peut aussi avoir des répercussions plus globales et plus graves encore.
À commencer par les risques environnementaux qui n'ont pas été évalués selon ces organisations. Qu'adviendra-t-il du saumon sauvage s'il y a des fuites de saumon transgénique dans la nature? Car si jusqu'à présent la firme Aqua Bounty se contentait d'élever des œufs avant de les envoyer au Panama, loin de la mer pour les faire éclore, elle a obtenu l'autorisation de produire du saumon transgénique sur son site à l'est du Canada. Les organisations rappellent aussi que le saumon est un premier test avant d'autres cultures de poissons modifiées qui sont déjà à l'étude. Quant au marché, si les Canadiens, pour l'instant, les États-Unis pourraient suivre, ils ont déjà accepté la consommation d'animaux génétiquement modifiés. Mais avant d'importer les saumons transgéniques, ils exigent, comme les associations, un étiquetage particulier.
Mélodie Pépin, merci. Des pluies torrentielles accompagnées de coulées de boue et de glissements de terrain qui ont surpris en pleine nuit les habitants de la capitale du Sierra Leone. Freetown, il y a au moins 312 morts, 2000 sans-abri, bilan qui risque de s'alourdir. En France, un temps orageux, nuageux partout demain. En France, donc, orageux sur un quart notamment nord-est du pays. Des températures de 13 à 19 degrés le matin, édition réalisée avec M. Leschili. Et le prochain journal est à 22h avec Sébastien Berriot.